Bienvenue dans la maison des maternelles. Aujourd'hui, Marie nous racontera comment elle a été opérée de l'appendicite pendant sa grossesse. Grossesse qu'elle a ensuite menée à terme sans encombre. Et puis le professeur Laurent Salomon, gynécologue obstétricien, nous détaillera les interventions chirurgicales possibles chez la femme enceinte. Chaque année, alors je vous donne un chiffre pour démarrer, c'est une grossesse sur 1500 qui est perturbée par une crise d'appendicite. Et si elle n'est pas diagnostiquée à temps, on sait que ça peut dégénérer, ça peut vraiment être dangereux pour la mère ou pour le fœtus. Donc aujourd'hui, on fait de la prévention grâce à vous, Marie. Bonjour.
Bonjour.
Merci, vous étiez enceinte de 3 mois et demi quand on vous a donc découvert une appendicite. Heureusement, tout s'est bien passé. Votre fille Elisabeth, elle est née à terme, tout va bien. Elle est trop mignonne, elle est dans les coulisses. Et ce qui, en fait, on va le voir avec votre histoire, un petit peu risqué, c'est que forcément, quand on est enceinte, ces douleurs, elles peuvent être confondues avec d'autres. Donc, vraiment, écoutez ce témoignage au cas où vous êtes enceinte. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrée déjà, on revient en arrière, avec votre conjoint Sébastien? Et à quel moment vous avez décidé de faire un bébé?
En fait, on s'est rencontrés, déjà, on s'est rencontrés en boîte de nuit, donc c'était assez improbable parce qu'on ne se connaissait pas du tout. En fait, c'était comme un coup de foudre. Et puis, quand même, quand on s'est rencontrés, on avait 10 ans de différence. Moi, j'avais 20 ans, lui, il en avait 30. Donc, c'est vrai qu'assez rapidement, la question de savoir mariage, enfant, elle s'est posée. Parce que lui, il n'allait pas s'engager avec quelqu'un qui avait 10 ans de moins que lui et qui n'avait pas les mêmes envies que lui. Mais après, à partir du moment où on était d'accord là-dessus, on ne s'est pas pressé. On a pris notre temps. Moi, il fallait que je finisse mes études. Il fallait qu'on emménage ensemble. Donc, on a pris notre temps. Et puis en plus... quand finalement on s'est décidé, moi on savait que j'ai une endométriose, j'ai un syndrome d'ovaire polykystique.
Ah, vous pouvez témoigner pour 2 autres émissions, c'est bien.
Exactement. Et en fait, du coup, ça fait que j'ai des règles assez sporadiques et surtout, ça fait qu'en fait, on ne sait jamais quand j'ovule. Donc, quand on s'est décidé, on s'est dit, bon, on est prêt, mais on n'est pas stressé, on prend notre temps.
Oui, vous vous êtes dit, de toute façon, j'arrête la pilule, mais ça n'arrivera pas, quoi, parce que j'ai trop de problèmes. En tout cas, ça ne va pas arriver tout de suite, quoi.
C'est ça.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte?
Justement, du coup, moi, en fait, au début, je n'osais pas trop espérer. Et en fait, c'est mon entourage qui s'en est rendu compte.
Ah bon?
Parce que, en fait, c'est tout le monde qui me disait... moi, je disais à tout le monde, j'ai faim, je suis ballonnée, je ne comprends pas. Et tout le monde me disait, mais t'es enceinte. J'ai même un collègue qui, en rigolant, me dit, mais t'es enceinte. Moi, je dis, mais non, bien sûr que non, je ne suis pas enceinte. Et en fait, parce que j'avais eu quelques déceptions, donc je n'osais pas trop espérer. Et puis finalement, j'ai fait un test. Je n'ai même pas dit à Sébastien que je faisais un test. Je l'ai fait. Et puis il a su parce qu'il m'a entendu courir. Tout d'un coup, il était dans la chambre, il dormait. Et tout d'un coup, il m'a entendu courir, arriver en disant « Regarde !»
Bon, il était trop content, j'imagine.
Oui, on était contents. On était vraiment
trop
contents.
Chouette. Alors, comment s'est passé votre début de grossesse?
Du coup, bien, à part que j'avais très faim tout le temps et j'étais très fatiguée. Mais sinon, je n'étais pas malade, je n'avais pas de nausées, je n'avais pas de vomissements. Vraiment, ça, à ce niveau-là, ça se passait vraiment bien.
Vous avez su le sexe très tôt, d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, on a fait la première échographie et tout de suite, l'échographiste, en fait, nous a dit « Non, mais ça se voit que c'est une petite fille. D'habitude, je ne dis pas, mais là, franchement, je peux vous dire à 90%, c'est sûr, c'est une fille. » Et nous, on était vraiment contents parce que c'est vrai que on n'osait pas trop le dire, mais bon, on espérait vraiment une petite fille. Moi, je rêvais d'une petite fille depuis le début. J'avais dit, si j'ai une fille... apparemment, depuis que j'ai 10 ans, je disais, si j'ai une fille, je l'appellerai Elisabeth.
Ah bah voilà, donc un rêve qui se réalise,
exactement.
Marie. Alors, dans la nuit du 6 au 7 juin, vous êtes à 3 mois et demi de grossesse, et là, vous ressentez une douleur.
Ouais.
Mais vraiment une douleur que vous ne connaissez pas, quoi.
En fait, c'était dans le bas du dos, un peu dans le ventre. Ça ressemblait un peu à des douleurs de règles, mais pas tout à fait. Et puis, c'était douloureux, mais sans être non plus insupportable. Après, moi, j'ai une tolérance à la douleur qui est assez élevée avec l'endométriose, donc ça peut aussi jouer. Mais en tout cas, je sentais que c'était une douleur un peu étrange. Alors évidemment, mon réflexe, c'est d'aller sur Google, de chercher.
Bien sûr.
Je trouve, douleur lombaire pour la grossesse, c'est normal. C'est le bébé qui appuie sur le nerf. Je me dis, bon, c'est peut-être ça, même si j'y croyais pas trop. Et puis, ça passe pas. Vraiment, ça passe pas du tout. Et du coup, à 3h du matin, j'appelle les urgences de la maternité qui me suivaient. Et en fait, eux me disent, vous prenez un Doliprane, vous prenez un Spasfon, et si ça passe pas dans une heure, à ce moment-là, vous venez.
D'accord. Et le lendemain, la douleur est passée.
Exactement.
Mais en fait, quand même, par prudence, vous vous dites, je sens qu'il faut que j'aille aux urgences, quoi. Donc vous y allez avec votre chéri, avec Sébastien. Et qu'est-ce qu'on vous dit alors à ce moment-là?
En fait, j'arrive, donc j'ai plus mal. Et par contre, j'ai un énorme point de côté qui est apparu en y allant. Et je vois un interne de la maternité qui, tout de suite, en fait, déjà me rassure sur l'état du bébé. Enfin, il fait une échographie, il me dit tout va bien. En plus, il confirme que c'est une petite fille. Donc déjà, on était rassurés là-dessus. Mais en fait, en faisant l'échographie, quand il appuie avec la sonde du côté droit, sur mon ventre, j'ai une douleur vraiment
aiguë, mais
furtive. Enfin, vraiment juste quand il appuie à cet endroit-là. Et donc, à ce moment-là, il me dit, je soupçonne peut-être une appendicite, tout en me disant, j'y crois pas trop, parce que normalement, une appendicite, je devrais être en train de hurler de douleur. Mais en même temps, il me dit, avec une grossesse, tout est possible, on sait jamais.
C'est ça. Et puis, encore une fois, vous le disiez, vous avez une tolérance à la douleur qui est bien plus importante que quelqu'un qui n'a pas d'endométriose.
C'est ça, parce que je suis un peu habituée à serrer les dents. C'est donc ça. À ce niveau-là, bon. Mais il me dit, on sait jamais, je vous garde, je vous fais faire une prise de sang pour vérifier les taux d'inflammation.
Alors, les résultats de la prise de sang disent quoi après?
En fait, ça confirme, mais en même temps, ça ne confirme pas une appendicite parce qu'en fait, ils sont très, très légèrement au-dessus de la norme, mais vraiment de quelques millièmes de points. Mais en même temps, comme ils sont quand même en dehors des normes, l'interne me dit, on va vous faire faire une échographie. Normalement, il m'explique qu'avec une appendicite, il faut faire une IRM. Mais évidemment, ça, c'est interdit aux femmes enceintes.
Oui.
Donc, il faut faire une échographie qui est beaucoup moins précise, mais qui est autorisée pour les femmes enceintes.
Donc là, on est sur le point, en fait, de vous renvoyer chez vous, presque, parce que personne n'y croit, cet appendicite.
Pas trop, oui. En fait, c'est peut-être juste une douleur, c'est peut-être juste quelque chose comme ça.
Oui.
Si c'est pas l'appendicite, vous rentrez chez vous, et puis voilà.
Voilà. Alors, lui, il appelle une collègue, quand même, pour être sûr, à un moment. L'interne qui lui dit qu'elle n'y croit pas, on est d'accord.
En fait, il m'emmène faire une échographie. Donc, et là, je vois un interne, en tout cas un très jeune médecin, qui me fait l'échographie, et lui me dit... Moi, je pense quand même que c'est ça, parce qu'il me dit, en fait, tout est limite. Sur l'échographie, on voit limite une petite bande. Sur vos taux d'inflammation, c'est limite. Vous avez mal, mais bon, c'est pas non plus... Vous n'êtes pas tordu de douleur. Donc, effectivement, il appelle une de ses collègues un peu plus senior. Et sa collègue senior, elle arrive et elle voit l'image et elle dit tout de suite, non, il n'y a pas d'appendicite, renvoyez-la chez elle.
Bon, vous êtes sur le point de rentrer, puisqu'on vous dit d'y aller. Et puis l'interne revient vous voir quand même. Là, il vous dit, j'ai quand même un doute, quoi.
Exactement. En fait, il y avait un infirmier qui venait vraiment me chercher juste à ce moment-là. Ça faisait 10 minutes que j'attendais pour qu'on me ramène aux urgences, qu'on me ramène chez moi. Et juste au moment où l'infirmier arrive, l'interne arrive et dit, non, arrêtez, attendez. Moi, je crois à mon diagnostic d'appendicite et franchement, je suis reconnaissante d'y avoir cru.
Oui, dis donc.
Et du coup, il dit, je veux que ma chef de service vous voie. Et en fait, c'est la chef de service qui vient et elle regarde l'image. Alors évidemment, mais oui, ça se voit. Alors moi, je vois rien.
Oui.
Mais elle dit, elle confirme un début d'appendicite tout au début, mais elle confirme un début d'appendicite.
Bon, donc qui dit appendicite dit opération. Est-ce que vous étiez inquiète à ce moment-là?
En fait, non. Franchement, j'étais assez sereine. Je pense que déjà, je n'avais pas trop réalisé ce qui se passait. Et puis, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour moi, une appendicite, au moins, c'était un diagnostic.
Oui, c'est ça.
J'avais même dit à ma mère le matin, mais en fait, limite, si c'est ça, franchement, je serais rassurée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et au moins, il va se passer quelque chose. Et puis en plus, moi, depuis le matin, on m'avait quand même dit... appendicite et grossesse, vous inquiétez pas, l'opération n'est pas dangereuse, ça va bien se passer pour vous et pour le bébé. Donc en plus, je me disais, normalement, il n'y a pas trop de risques.
Oui.
Bon, jusqu'à ce que j'arrive sur la table d'opération, donc c'était vraiment c'était sûr et certain que j'allais me faire opérer, et l'anesthésiste se penche vers moi, et à ce moment-là, il me dit, je vais vous faire un cocktail spécial femme enceinte, mais je dois vous prévenir, il y a des risques de fausse couche. Ce qui, en fait, est logique. Enfin, en fait, moi, j'avais complètement effacer ça de mon cerveau. Mais c'est vrai que n'importe quelle anesthésie, il y a un risque de fausse couche. N'importe quelle opération, il y a un risque de fausse couche.
C'est-à-dire qu'il devait vous prévenir, mais c'est vrai que là, c'était un peu au dernier moment.
Même
au moment
si les risques sont très faibles. Mais moi, en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment paniquer sur le coup parce que dans les 30 secondes qui suivaient, on m'avait mis le masque pour m'anesthésier et j'étais endormie, en fait.
Oui, donc ça va. Et le réveil, ça s'est passé comment, alors?
Difficile. Difficile parce que on n'a pas le droit à tous les médicaments qu'on a le droit normalement dans une opération.
Donc vous aviez mal?
Donc j'avais mal. Ah oui. Déjà, j'avais très mal à la gorge parce qu'on m'avait intubée et qu'effectivement, je n'avais pas les antidouleurs habituels. En plus, j'étais un peu dans le coltard et je n'arrivais pas trop à me réveiller. Donc en fait, j'ai mis du temps à sortir de cet état-là pour demander comment ça s'était passé, si mon bébé allait mieux, si mon bébé allait bien, si moi j'allais mieux. Et en fait, bon, l'infirmière m'a rassurée, elle m'a dit tout va bien. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était là pour le coup, j'étais vraiment angoissée parce que l'histoire de fausse couche, par exemple, je savais pas est-ce que c'est dans la minute, est-ce que c'est pendant l'opération, est-ce que c'est dans les 24 heures, est-ce que c'est dans les 3 semaines qui suivent.
Donc, alors, autant de questions pas... qu'on va poser à notre spécialiste tout à l'heure, parce que c'est vrai que l'important, c'est d'être informé dans ces moments-là c'est d'urgence. Ça. Alors, vous avez eu 2 semaines d'arrêt après pour récupérer. Oui. Juste le temps de préparer votre mariage, Marie.
Oui, oui, oui. On a eu de la chance parce que, en plus, le post-opératoire, du coup, était vraiment très compliqué. Pour avoir eu une césarienne à l'accouchement, j'ai pu comparer. La césarienne, on a les vrais médicaments. J'étais, au bout de 4 jours, je gambadais. Là, j'ai mis vraiment 10 jours à bien remarcher. Enfin, je marchais comme une grand-mère. J'avais vraiment du mal à me lever. Et ça a été, du coup, ça a été beaucoup plus douloureux, on va dire, et plus dur de s'en remettre. Donc, à quelques jours près, j'aurais soit été à moitié courbée pendant le mariage, soit, honnêtement, je pense que ça aurait été le jour du mariage. Je ne serais peut-être pas allée aux urgences. Et là, ça aurait pu être un peu plus compliqué parce que, du coup, on l'aurait attrapé moins vite.
Bon, en tout cas, on peut remercier cette interne qui vous a évité la péritonite parce que ça, c'est la complication qui est en plus qui peut être vraiment sérieuse de l'appendicite.
Comme quoi, faut suivre son intuition parce que moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je suis allée aux urgences et lui, il a suivi son intuition.
Et on a le plaisir d'avoir sur ce plateau une nouvelle fois le professeur Laurent Salomon. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et spécialisé dans le suivi des grossesses à risque. Donc on a plein de questions bien sûr sur l'appendicite. Je ne peux pas dire que ce soit une grossesse à risque, ça n'a rien à voir, mais enfin bon, c'est quand même un risque. C'est vrai qu'on voit que sans l'insistance de l'interne, quand même, Marie, elle aurait été renvoyée chez elle avec une appendicite qui n'aurait pas été traitée. Quel risque est-ce qu'elle aurait encouru si jamais on ne l'avait pas opéré tout de suite?
Les risques pour une femme enceinte sont à peu près les mêmes que pour une femme qui n'est pas enceinte, c'est-à-dire que l'appendicite, si elle n'est pas traitée, elle risque d'évoluer, et donc l'infection, l'inflammation va se propager.
C'est quoi? C'est une infection, en fait?
Oui, exactement, une inflammation et une infection de l'appendice.
On sait
et
donc c'est dû, pardon, je vous interromps tout le temps, mais...
En fait, c'est des germes qui vont se développer de manière anormale dans ce petit appendice, qui est un espèce de cul-de-sac digestif, et donc ça va se développer, et ça va évoluer, vers un abcès, puis si ça évolue encore plus, ça va se perforer. C'est-à-dire que ça se perfore au niveau de l'appendice et que l'infection va se disséminer dans le péritoine. Et c'est ce qu'on appelle la péritonite. Et donc là, on est à un stade beaucoup plus ennuyeux.
Péritonite comme péritoine, mais bien
exactement.
Sûr.
Exactement.
Mais c'est bien sûr.
Bon, oui, écoutez, il fallait que j'attende 49 ans pour
comprendre. Il n'est jamais trop tard.
Tous les jours dans cette émission, on apprend des choses. Elle est formidable. Justine vous demande, quels sont les symptômes d'une appendicite et sont-ils différents lorsqu'on est enceinte? Alors, vous disiez que non, ce n'est pas forcément différent.
Alors, ce n'est pas très différent. L'appendicite, c'est une infection très banale. Hein. On connaît tous des gens qui ont l'appendicite très régulièrement. Et en fait, les symptômes sont quand même assez atypique régulièrement. Souvent, on se pose la question, est-ce que c'est une appendicite? On tourne un petit peu autour. Alors, classiquement, évidemment, on sait, c'est la douleur en bas à droite, dans le ventre, avec éventuellement une petite fièvre, des petits symptômes digestifs. Mais parfois, ça peut être des symptômes atypiques, beaucoup plus frustres, et en particulier chez la femme enceinte. La femme enceinte, fréquemment, elle a des petites douleurs au ventre, donc parfois ça peut passer un peu inaperçu.
Des petites douleurs ligamentaires.
Voilà,
en bas.
Donc on peut avoir tendance à banaliser les choses. On dit non, mais c'est rien, ça va passer. Essayez de prendre quelques petits médicaments, un peu comme on l'a vu avec notre invité, où on peut parfois banaliser un peu les symptômes. Et puis il y a certaines modifications chez la femme enceinte, des modifications déjà de l'anatomie. L'utérus grossit et peut refouler l'appendice et faire que les douleurs se retrouvent projetées dans une zone qui est moins habituelle. On n'a plus classiquement les douleurs en fosse iliaque droite, mais les douleurs peuvent être un petit peu plus hautes, un petit peu plus en arrière, etc. Donc on peut facilement passer à côté, ou en tout cas ne pas y penser. Et puis il y a également quelques modifications biologiques chez la femme enceinte, qui fait que certaines des anomalies qu'on peut retrouver sur le bilan d'une personne qui a une appendicite peuvent se retrouver un petit peu masquées chez une femme enceinte. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, il faut toujours avoir en tête...
Sur la prise de sang,
sur la prise de sang. Donc, il faut toujours avoir en tête l'appendicite chez la femme enceinte dès lors qu'il y a des symptômes un petit peu inhabituels et ne pas oublier donc, d'évoquer cette affection qui peut être grave.
Oui, pour les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, si elles ne l'ont pas eu...
Exactement.
En cas de douleur, elles se posent la question et
l'évoquent. Il faut se poser la question.
Et on peut faire radio IRM sur une femme enceinte, scanner, non?
Alors, on peut faire échographie et IRM, pas de radio ni de scanner, parce que c'est des rayonnements ionisants. Et en général, avec l'échographie et l'IRM, on s'en sort très bien.
Ça suffit. Question envoyée par Fanny, pour vous.
Savoir quels étaient les risques de l'anesthésie générale pour le futur bébé. Merci.
C'est forcément anesthésie générale déjà.
Oui, ça va être une anesthésie générale. Alors, il faut savoir que quand on fait une anesthésie générale à la maman, en fait, on fait une anesthésie générale au fœtus également, qui va s'endormir, mais il n'y a pas de risque particulier. Les anesthésistes ont bien l'habitude de toutes les drogues qu'ils utilisent, qui sont des drogues qui sont sans risque pour la femme enceinte. Simplement, les conditions d'anesthésie peuvent être un petit peu plus complexes pour nos collègues anesthésistes, en particulier du fait de l'anatomie de la femme enceinte. Une femme enceinte qui a un stade assez évolué de la grossesse peut avoir un utérus qui prend de la place, qui peut comprimer un peu l'estomac, comprimer un peu les poumons. Donc ça peut rendre l'anesthésie un peu plus compliquée, mais au niveau des drogues, il n'y a pas de souci particulier.
Une autre question très intéressante, Clara vous demande si le traitement de l'appendicite pendant la grossesse peut se faire avec des antibiotiques.
Alors non, le traitement de l'appendicite, il est chirurgical. On utilise aussi des antibiotiques dans le cadre du traitement de l'appendicite, mais le traitement de l'appendicite, il est chirurgical pour une femme enceinte comme pour une femme non enceinte.
Et la péritonite aussi, c'est chirurgical ?
La péritonite, c'est encore plus chirurgical, oui. Vraiment.
Parce qu'il faut aller dans le péritoine et enlever l'infection, c'est
voilà,
ça ?
Il faut aller nettoyer le péritoine. En plus de traiter la cause, il faut aller nettoyer.
Au Moyen-Âge, on en mourait systématiquement, non ?
On en mourait quasi systématiquement, ouais. Oui.
Période que j'ai bien connue.
Manon, il faut que vous ne dites pas ça.
Oui, j'ai hésité, mais je ne le dis pas aujourd'hui. L'opération de l'appendicite se fait-elle toujours par calioscopie ?
Alors, par célioscopie.
C'est pas grave. Il a ça sous ton yeux que je suis un bluffeur, en fait.
C'est lui qui nous fait croire qu'il est gynéco, et puis ça fait un mois qu'on y croit, hein, au moins.
Donc, en fait, la célioscopie, c'est effectivement la voie classique pour intervenir. La célioscopie, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est simplement une intervention par des petites caméras qui vont être introduites dans le ventre. On va gonfler le ventre avec un gaz et puis on va rentrer avec des petites caméras et avec les instruments. La célioscopie se fait très bien, y compris chez la femme enceinte, mais seulement jusqu'à un certain terme, globalement jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à peu près le milieu de la grossesse. Ensuite, l'utérus prend trop de place. Et on a recours à une intervention classique, donc par laparotomie, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, même si on n'ouvre pas beaucoup, on va ouvrir le ventre pour aller directement aborder l'appendice.
Alors, on a une future maman qui a besoin d'être rassurée. Daphné vous dit, à 22 semaines, je me suis aussi fait opérer de l'appendicite. Ai-je davantage de risques d'accoucher prématurément ? Le médecin reste flou.
Non. On peut la rassurer.
Ça n'a rien à voir.
Non, il n'y a pas de risque. Une fois que l'intervention est passée, c'est passé, il n'y a pas de risque.
Ben voilà.
Du coup, il y a des questions sur la chirurgie au sens large pendant la grossesse. Amira vous demande, je dois me faire opérer au niveau du dos. Dans quelle mesure cette opération peut affecter le bébé ? Faut-il décaler l'intervention ? Bon, c'est compliqué de répondre sans savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, globalement, si on peut, j'imagine, décaler les opérations, on préfère ?
Alors, globalement, on peut faire n'importe quelle intervention chez une femme enceinte. C'est toujours une question de ratio, ce qu'on appelle bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce que l'intervention est vraiment urgente ou est-ce qu'on peut, dans de bonnes conditions, décider d'attendre et intervenir après la grossesse, ce qui est toujours plus confortable, moins stressant pour la maman, pour les médecins, etc. Donc, ça dépend évidemment du type d'intervention. Globalement, c'est toujours la maman qui prime. Et donc, n'importe quelle intervention, si elle est vitale pour la maman, on va la réaliser pendant la grossesse. Donc, c'est toujours une évaluation qui doit se faire entre les spécialistes de l'intervention, l'obstétricien et la maman. On va décider quel est le meilleur maman pour opérer.
Merci au professeur Laurent Salomon, merci à Marie, merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager.